Bonsoir à tous. Bienvenue au Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris, pour cette soirée d'éthique publique. C'est la 50e soirée, déjà. Alors permettez-moi de vous remercier de votre fidélité au long des mois et des années. Grâce à vous, à votre présence intéressée et bienveillante, nos rencontres ont pu exister et toucher un public de plus en plus large. Bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois ce soir. Bienvenue aussi à ceux qui sont en lien avec nous par retransmission en direct. Nos amis fidèles de Bordeaux, Lyon, Poitiers, Chaville, Aix-en-Provence et ceux plus loin, mais pas moins fidèles, de la communauté francophone d'Athènes. Il est toujours possible d'écouter ou de réécouter l'enregistrement de nos soirées sur le site internet du Centre Sèvres. Le mois dernier, nous nous sommes intéressés, certains nombreux étaient là, à ce que vivait l'Église à l'occasion du premier anniversaire de l'élection du pape François. Où nous conduit le pape François, nous sommes-nous demandés, avec l'aide de M. Frédéric Mounier et de Mgr Claude Dagens. Le mois prochain, mardi 6 mai, nous regarderons vers l'Europe, quelques jours avant que les Français soient de nouveau appelés aux urnes pour élire les députés qui les représenteront au Parlement européen pour les 5 années à venir. Comment se réapproprier l'Europe? Ce sera le thème de notre soirée du mardi 6 mai en partenariat avec la revue Projet qui sort son numéro précisément sur ce thème. Comment se réapproprier l'Europe? La revue Projet animée par le CERAS. Ce soir, nous allons rester sur les enjeux politiques. La dernière fois, j'avais annoncé un titre provisoire à cette soirée. Pourquoi la situation politique de notre pays nous désole-t-elle tant? Titre que certains, à juste titre sans doute, avaient trouvé un peu trop noir et pessimiste. Alors l'actualité nous invite en tout cas à nous arrêter. Si je peux vous assurer que nous n'avons rien fait pour que le changement de gouvernement coïncide précisément avec le jour de cette soirée d'éthique publique.
Les jésuites.
Les résultats, c'est pour ça que j'ai précisé, les résultats du second tour des élections municipales et les changements en cours nous invitent évidemment à réfléchir sur la vie politique de notre pays et plus particulièrement au rapport que les Français entretiennent avec leur classe politique. Taux élevé d'abstention, lassitude devant les affaires qui polluent l'espace public, doute devant la possibilité de changer quelque chose. Depuis des années, la crédibilité du politique est mise à mal dans notre pays. Est-ce une fatalité? Comment rétablir la confiance entre les Français et leurs responsables politiques? Que peut-on craindre et espérer de l'évolution politique de notre pays? Politique, peut-on encore y croire? C'est le thème de notre soirée. Pour nous aider à y voir clair, nous sommes très heureux d'accueillir nos invités. Monsieur Philippe Meyer, faut-il vous présenter? Je n'en suis pas sûr. Journaliste, chroniqueur politique, écrivain, homme de radio, de télévision. Actuellement, vous animez notamment l'émission L'Esprit public sur France Culture le dimanche matin. Cet esprit public exigeant et ouvert au dialogue qui vous caractérise et que vous souhaitez pour notre pays. Heureusement pour nous, il y a le podcast, car cette excellente émission est à l'heure de la messe à l'église Saint-Ignace. Et entre les deux liturgies, il a bien fallu choisir.
Je dois préciser que je suis né le 25 décembre. Donc, il y a longtemps que j'ai commencé.
De formation, si je ne me trompe pas, juridique et en sociologie, vous êtes depuis longtemps un observateur attentif de la vie politique de notre pays. Pas seulement un observateur d'ailleurs, puisque je crois que vous êtes aventuré un moment en politique. Vous êtes ainsi présenté aux élections municipales de 2008 dans le 5e arrondissement de Paris. Chaque matin, vous terminez votre chronique à 7h56 sur France Culture par cette formule devenue célèbre « Le ciel vous tienne en joie ». Un souhait qui fait du bien à beaucoup. Alors je ne sais pas si la politique vous tient en joie actuellement, mais nous, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir et de profiter de votre réflexion ce soir. Merci beaucoup de votre présence. Avec nous également ce soir, M. Marc Mortureux, que je suis aussi très heureux de recevoir. En fait, l'invitation est ancienne, puisque je vous avais invité pour la toute première soirée d'éthique en octobre 2008 sur le thème « Peut-on être chrétien et ambitieux ?» Et malheureusement, au tout dernier moment, les contraintes de vos responsabilités d'alors, comme directeur de cabinet de M. Luc Châtel, vous avaient empêché de venir. Alors aujourd'hui, 50 soirées plus tard, c'est la bonne. Le thème n'est pas le même, mais il n'est sans doute pas sans rapport. Ancien élève de Polytechnique et des Mines, votre parcours professionnel atypique par certains côtés vous a fait découvrir et servir l'État de différentes manières, vous a conduit aussi à côtoyer et à connaître le monde politique et à réfléchir précisément aux enjeux du politique. Vous avez ainsi été, ma liste n'est pas exhaustive, conseiller technique du ministre de l'Industrie, Gérard Longuet, dans les années 90, directeur de la recherche et du développement à la Compagnie générale de géophysique, directeur général du Laboratoire national de métrologie et d'essais, puis directeur général adjoint de l'Institut Pasteur. Directeur de cabinet, nous l'avons dit, de M. Luc Châtel, quand il était secrétaire d'État à la consommation et à l'industrie et porte-parole du gouvernement. Et actuellement, vous êtes directeur de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Sur un autre registre, pourrait-on dire, vous avez aussi été responsable national, avec Anne, votre épouse, qui est dans la salle, du MCC, le mouvement chrétien des cadres et dirigeants. Merci beaucoup, Marc, de ta présence et de nous partager ton témoignage et ta réflexion.
Je suis juste un peu embêté qu'on nous ait obligé d'éteindre nos portables, parce que c'est le moment des promotions ministérielles, des coups de fil à attendre.
Il bon, faudra attendre pis, la fin de la soirée. Hein. Voilà.
Il faut savoir se faire désirer.
Alors, sans plus attendre, eh bien, je vous laisse la parole. Je sens que vous êtes prêts pour ça. 20 minutes environ chacun avant d'ouvrir le débat. Et c'est M. Philippe Meyer qui va commencer.
J'ai pas besoin d'appuyer sur rien, si ?
Non, ça marche.
Non, c'est que j'ai déjà vu un micro dans ma vie, mais ils ne marchent pas tous de la même manière. Merci, mon père, de m'avoir invité. Je fréquente toujours très volontiers la Compagnie de Jésus, d'abord parce que les mille formes d'intelligence qui s'y déploient ne peuvent qu'être au moins partiellement contagieuses, même des esprits un peu obtus, et ensuite parce que ça me console toujours de n'avoir jamais pu rentrer dans un seul de vos collèges à l'époque où mes exploits scolaires me valaient de devoir changer fréquemment d'établissement. J'ai cependant été brièvement dans un collège tout à fait remarquable de jésuites et de jésuites anglais, qui arrivaient à coaguler à la fois toutes les vertus du collège jésuite et toutes les vertus du collège anglais. C'est près de Manchester, ça s'appelle Stonyhurst. Ça a dû changer un peu depuis le temps où j'y étais, mais c'est un souvenir qui ne s'oublie pas. J'ai peur de répondre plutôt à la première question que vous aviez envisagée que à la seconde, parce que l'endroit est sans doute assez bien choisi pour une confession publique. Je suis devenu récemment une sorte d'athée politique. Je dois même confesser que je n'ai pas voté. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas voté, je n'ai même pas voté blanc, je n'ai pas voté du tout. Je suis resté chez moi. Et Dieu sait que la politique m'intéresse, et Dieu sait qu'elle m'intéresse depuis longtemps, puisque j'ai eu, quand j'avais 15 ans, je crois, ou 16, la chance d'habiter près de Paris dans un endroit, dans un village dans lequel Michel Rocard, qui à l'époque ne portait pas encore officiellement son nom de Rocard, car ses fonctions l'empêchaient de faire de la politique sous son vrai nom, il s'appelait encore Georges Servet, donc dans l'endroit que Michel Rocard avait choisi pour le QG à partir duquel il essayait de conquérir une circonscription des Yvelines, qu'il a d'ailleurs fini par conquérir au bout de 3 élections qui ont eu lieu chacune à 1 an d'intervalle. Et j'ai fait avec passion ces campagnes par admiration pour l'homme, mais évidemment par admiration aussi par la manière dont il parlait de la politique. C'était une époque où on entendait peu souvent parler de la politique sous cette forme, c'est-à-dire celle de l'aménagement du territoire, celle de l'éducation nationale et de la réforme des universités, celle des rapports entre Paris et la province, celle aussi des rapports avec le reste du monde, car la politique française avait très souvent des aspects très refermés sur elle-même. Et ce goût pour la politique et cette admiration pour Michel Rocard ne m'avait pas quitté, l'admiration pour Michel Rocard ne m'a toujours pas quitté, mais la foi dans la politique m'a abandonné. Je lisais que dans une récente biographie de Manuel Valls, qu'il avait été un catholique pratiquant jusqu'à un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, et que sorti de Saint-Jacques-de-Compostelle, il y avait laissé la foi à l'intérieur et qu'il y avait perdu. Il m'est arrivé quelque chose d'à peu près aussi soudain. Pourquoi ? J'ai été, vous l'avez rappelé, candidat à Paris aux dernières élections municipales. J'ai écrit 2 livres sur Paris. Je suis électeur à Paris. C'est donc à Paris que je n'ai pas voté. Sans doute, si j'avais été inscrit dans mon village de l'Aveyron, je serais allé voter, évidemment, puisqu'il ne s'agit pas de politique et qu'il y a 89%, je crois, dans le village en question. Il y a eu 89% de participants sur 300 habitants, pas considérable. Je me suis beaucoup intéressé à Paris depuis, je dirais que j'ai à peu près 14 ans. Je savais que je viendrais y habiter. J'étais pas très loin, j'habitais à 15 kilomètres, mais 15 kilomètres de Paris, c'est très loin. Il n'y a rien de plus provincial que cette banlieue ouest entre Versailles et Saint-Germain-en-Laye dans laquelle j'ai grandi. Et dès que j'ai pu, en effet, je me suis installé à Paris et j'ai été de tout temps un Parisien actif, un Parisien qui marchait dans Paris, un Parisien qui circule encore à vélo dans Paris, un Parisien qui était aussi curieux des églises que des restaurants, des monuments que des portes qu'on peut pousser pour aller voir à quoi ressemble une cour, et des habitants. J'ai donc enseigné pendant 10 ans à Sciences Po, j'ai tenu un séminaire sur l'histoire et les problèmes contemporains de Paris, j'ai écrit ces 2 livres, j'ai même fait au Théâtre de la Ville un spectacle sur Paris dont j'essayais de créer l'âme, de retracer le portrait à travers ses chansons et à travers un certain nombre de textes. Et cette ville me tient énormément à cœur parce que, comme le dit Montaigne dans cette phrase qui a été gravée sur le socle de sa statue en face du Collège de France, « Je ne suis français que par cette grande cité, Paris à mon cœur dès mon enfance, je ne suis français que par cette grande cité, incomparable surtout en variété. » Et c'est d'avoir poussé en vain des cris d'alarme sur la disparition de la variété parisienne, je veux dire de la variété de son peuplement, qui m'a d'abord poussé à m'engager aux dernières élections il y a 6 ans. Si ça vous intéresse, je dirais pourquoi. Je ne regrette pas de l'avoir fait, mais je pense que ce que j'en attendais était quelque chose de tout à fait fantasmatique et idéaliste. Et c'est ce qui fait aussi que je n'ai pas voté cette fois-ci. Pourquoi ? Parce que j'ai eu l'impression d'avoir affaire à 2 clans qui ne connaissaient de la réalité que la statistique et de la population que ce que leur en disent les spécialistes de la communication et des sondages. J'ai eu l'impression de quelque chose qui se déroulait entièrement hors sol ou sur la scène d'un mauvais théâtre. Et j'en ai trouvé il n'y a pas très longtemps une illustration qui m'a énormément frappé et que je voudrais partager avec vous. Vous avez remarqué que ces dernières semaines, ces derniers mois, on parle beaucoup des Français, jeunes ou moins jeunes, qui s'expatrient. Il y a ceux qui s'en vont pour des raisons fiscales, ils sont évidemment forcément peu nombreux, et il y a les autres qui s'en vont et dont on voit qu'ils ont, au cours des 10 dernières années, que leur effectif a cru de 3 à 4%. Un certain nombre de commentateurs reprenaient ces chiffres, essayaient de les détailler, vers quelle destination, et se demandaient ce que ça pouvait bien signifier. Puis j'ai trouvé un commentaire, et peu importe son auteur, parce que je crains malheureusement que son commentaire soit partagé par beaucoup, et en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, qui disait « Oh, on a regardé, il y en a beaucoup en effet qui s'en vont. » Mais il y a très peu de bac plus 8. C'est donc pas la fuite des cerveaux. D'abord, l'idée qu'un bac plus 8 soit un cerveau me paraît quelque chose d'expérience. Je fais par chance ou par mérite partie de cette catégorie, me paraît quelque chose de tout à fait discutable. Un bac plus 8, c'est une éponge. Ce qu'on est capable d'en sortir, ou celui qui est le possesseur de cette éponge est capable d'en sortir, est tout à fait autre chose. Par ailleurs, si je fais référence à la région dans laquelle je suis partiellement installé dans l'Aveyron, région dont le vieillissement est constant et le dépeuplement admirable, il y a, par exemple, un artisan chauffagiste, fils lui-même d'un artisan chauffagiste qui avait son certificat d'études, mais lui a eu la chance de faire un petit peu plus d'études que son père, de passer un BTS et d'affronter des problèmes techniques, professionnels, que son père n'aurait pas su résoudre. Si jamais ce type-là partait, que ce soit en Angleterre, en Lituanie ou au Mozambique, ce serait un cerveau qui ficherait le camp. L'idée que c'est le diplôme ou le niveau de diplôme qui doit pouvoir nous permettre de juger de la gravité ou de l'absence de gravité du départ des Français vers l'étranger me paraît absolument typique de ce que les hommes publics et les publicistes, en entendant par ce mot les journalistes, les commentateurs, les analystes, les professeurs, se font de la réalité et me paraît donner une image de la distance qui n'a cessé de s'agrandir entre la réalité et eux-mêmes. Nous parlons, par exemple, de 3 millions et demi, 4 millions de chômeurs. On en parle tout le temps. Mais comment ces gens-là se débrouillent-ils? Qui sont-ils? Où sont-ils? Comment ont-ils une place à l'intérieur de la société? Comment sont-ils dans leur famille? Est-ce que vous croyez que les statistiques sont capables de nous le dire? Il n'y a ni dans le journalisme, ni dans ce qui sert d'information aux hommes politiques, quoi que ce soit, qui puisse faire en sorte que la réalité entre dans la prise en compte des situations. Je vais vous donner un autre exemple parisien. Il y avait rue des Moulins, qui est une petite rue entre l'avenue de l'Opéra et l'avenue de l'Opéra et la place des Victoires. Il y avait dans cette petite rue des Moulins une assez petite librairie spécialisée dans le théâtre. Cette librairie était tenue par un couple de garçons déjà assez âgés, qui avait une passion pour le théâtre manifestement très ancienne et qui était capable de fournir le texte, le manuscrit, édité, imprimé, publié chez un grand éditeur ou autrement, de, sinon tout, au moins l'essentiel du répertoire. Comme j'ai fait moi-même pas mal de théâtre et que je m'intéressais à tout ça, j'habite pas loin, j'ai souvent allé passer un moment, boire un café avec eux. On voyait arriver chez eux quantité de garçons et de filles de l'âge étudiant qui venaient et qui posaient une question du genre « Qu'est-ce que vous auriez comme pièce pour 5, 2 garçons et 3 filles ?» Alors les deux garçons, ou l'un des deux, qui tenait la boutique, disaient « Plutôt comique ou plutôt tragique, plutôt contemporain, plutôt ancien, plutôt court, plutôt long, et vous-même, il les faisait parler, et pourquoi voulait-il faire du théâtre, est-ce qu'ils en avaient déjà fait, etc. » Bref, ces gens assuraient non seulement une fonction de fournisseur de textes qu'on trouvait la plupart du temps nulle part ailleurs, mais en plus un vrai travail social et culturel. Un beau jour, le propriétaire de leur magasin a décidé que il céderait le fonds à un restaurant japonais. Pourquoi ? Parce que c'est un quartier qui est, comme vous le savez tous, hautement fréquenté par des touristes asiatiques, pas nécessairement japonais, mais peu importe. Et du coup, ils se sont trouvés mis à la porte. Donc, je me suis dit qu'il fallait essayer de faire quelque chose. Je suis allé à la mairie de Paris voir celle des plus hautes instances que je pouvais voir en disant, écoutez, voilà, vous ne pouvez pas laisser ces gens être chassés. Alors je sais qu'il y a des lois, que le commerce, etc., etc., mais il faut que vous les aidiez à trouver quelque chose qui leur permette, à eux et à tous ceux qui bénéficient de leurs services, de continuer à bénéficier des services qu'ils rendent. Je ne vous dis pas le temps qu'il a fallu pour que j'arrive à ce qu'on me regarde que comme autre chose qu'une espèce d'illuminé ou de quelqu'un qui avait éventuellement un intérêt matériel, moral, ou je ne sais pas quoi dans cette opération, mais bref, à force de connaître du monde et d'exercer un métier qui exerce lui-même un effet un peu intimidant sur ceux qui vous reçoivent, on a fini par bien vouloir prendre le dossier. Je vous résume l'opéra parce qu'il a été très long. À la fin des fins, on leur a trouvé un magasin boulevard Soult. Évidemment, passer du centre de Paris à ce boulevard extrêmement périphérique a fait que du jour au lendemain, mais statistiquement parlant, quand je suis allé gueuler comme un âne en disant « Vous vous foutez du monde, vous les avez tués », on m'a dit « Mais enfin, monsieur Meyer, ils avaient 55 mètres carrés, on leur en a trouvé 120. » Effectivement, la tombe était large. Et c'est à travers ce prisme-là que la politique me semble, je ne dis pas dans les villages dont je parle, où évidemment elle est contrôlée plus directement par les habitants, mais que ce que nous appelons la politique est faite de plus en plus souvent, pour ne pas dire à peu près tout le temps. Je voudrais juste terminer sur une comparaison historique. La crise que nous connaissons, qui est la crise d'une transformation, entre autres, des modes de production, mais aussi des modes de relation entre les gens, mais aussi de la sociabilité, est une crise dont on ne sait pas si on peut dire vraiment qu'elle a déjà eu un équivalent, mais dont on peut quand même estimer qu'elle a quelque chose à voir avec une autre grande transformation qui a été celle qui a vu passer notre pays et d'autres pays européens de la société agricole à la société industrielle. On sait le bouleversement que ça a représenté, les bouleversements que ça a représenté. On a appelé ça la question sociale. Tous ces déplacements de population, ces nouvelles activités, ces nouveaux modes de logement, ces nouveaux modes de transport, tous les problèmes qui ont pu être liés à ces transformations, les problèmes de santé, les problèmes d'habitat, les problèmes de relations entre les personnes, les problèmes d'activité des uns et des autres, tous ces problèmes-là ont constitué la question sociale, qui a été une question brûlante. Comment est-ce que nous avons répondu? Ou plus exactement, comment plusieurs réponses, souvent incompatibles, quelquefois partiellement compatibles, mais toutes en tout cas constituant la proposition d'une action, c'est-à-dire d'une politique, comment est-ce que ces réponses ont-elles été élaborées? Elles ont été élaborées à partir d'une connaissance de la société, d'une sorte de cartographie sociale, à travers un ensemble d'études. On appellerait ça aujourd'hui des reportages, mais si ça vous intéresse, je vous dirai aussi pourquoi et à quel point le reportage est étranger à la tradition du journalisme français et pourquoi, à mon avis, à quel point c'est une tragédie. Mais à travers ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des reportages et qu'on appelait plus volontiers à l'époque des monographies, qui ont été réalisées, je dirais, par des sociétés philanthropiques, par des sociétés savantes ou à l'initiative de philanthropes privés sur des sujets extrêmement étroits. Ça n'était pas sur comment venir à bout du chômage, c'était sur quelle est la condition des femmes dans les mines de... qu'est-ce qu'il y a ? C'est du charbon, je crois. Enfin, peu importe, ça aurait pu être du zinc, c'était pareil. Dans les mines du Tarn. Quelle est la situation des enfants quand ils travaillent? Quelle est la situation de l'habitat dans la région des filatures de Tourcoing? Quelle est la situation du repos? Quel est le mode d'organisation de la dépense? Comment sont organisés les services de santé? Comment sont organisés les services de néonatalité? Et encore, et chaque fois, dans des secteurs géographiques extrêmement précis, car les situations étaient très différentes selon qu'il s'agissait, par exemple, dans le Nord, du textile ou du charbon, ou qu'il s'agissait du textile du Nord ou du textile de Lorraine, etc., etc. C'est sur cette base-là de travaux qui ont été admirablement regroupés par une institution dont on a peine à croire qu'elle ait joué un rôle aussi actif dans la vie sociale, qui est l'Académie des sciences morales et politiques, sous la direction du docteur Villermé, mais aussi avec un certain nombre d'autres esprits éclairés, Villeneuve-Bargemont, j'en passe et des meilleurs, qui ont fait une sorte de collection et ensuite de synthèse de toutes ces observations, qu'ont été élaborées des doctrines aussi différentes et quelquefois aussi incompatibles que la doctrine sociale de l'Église, que ce qu'a été la doctrine du patronat chrétien ou que ce qu'a été le marxisme. Mais c'est quand la carte a été dressée qu'il y a eu des gens pour dire « il faut aller là et il faut y aller par ce chemin ». Nous n'avons aucune carte qui soit dressée, sinon à travers les statistiques, qui ne nous disent rien, d'autant plus qu'elles permettent de découper la réalité en tellement de parcelles qu'à la fin, il n'y en a plus de réalité, ou à travers des sondages qui sont des réponses absolument éphémères et sans valeur, pour l'action, sinon pour la communication qui, me semble-t-il, a plus que largement remplacé la politique, et c'est la raison, je crois, de l'athéisme dans lequel j'ai sombré et que je vous confessais tout à l'heure.
Merci beaucoup, Philippe Meyer. Je crois que nous avons bien entendu votre déception vis-à-vis de la politique, ce sentiment d'avoir affaire à des clans, le sentiment d'une politique hors sol, d'une distance qui n'a cessé de grandir entre les statistiques, les commentateurs, les sondages et la réalité, et finalement une réalité qui n'entre plus du tout dans l'analyse de la situation ni dans l'élaboration des réponses aux enjeux. Alors peut-être finalement que cette soirée sera utile pour vous aider à retrouver votre foi dans la politique. En tout cas, je suis sûr que Marc Mortureux y croit encore un peu.
Merci, bonjour tout le monde. Je vais effectivement me risquer un petit peu à essayer de donner quelques raisons, quand même, d'y croire encore en politique. Et je ne prends pas beaucoup de risques parce qu'on est le 1er avril. Donc si vraiment vous ne me croyez pas, on pourra croire que c'était des blagues. Alors moi, je voudrais le faire vraiment en tant qu'expérience de praticien. Je ne suis en aucun cas un politologue de quelque nature que ce soit. Moi, j'ai vécu donc un certain nombre de responsabilités dans la vie publique, également dans le privé. Et c'est vraiment au travers de mes expériences que je souhaiterais vous dire un certain nombre de choses. Et peut-être de commencer au travers de mon expérience, effectivement, cabinet ministériel, par quelques constats relativement simples que j'ai pu vivre. En m'excusant par le côté un peu parisien de mes expériences, puisque c'était au niveau national, sachant que je pense quand même un certain nombre de choses que je peux dire peuvent aussi se décliner au niveau territorial. Alors moi, la première chose que je voudrais dire, c'est que ce qui me paraît assez évident, c'est que agir politiquement n'a aujourd'hui plus le même sens qu'il y a 30 ans. C'est évident que les marges de manœuvre, je dirais un peu directes, du politique, au niveau national en tout cas, se sont beaucoup réduites, notamment avec la place grandissante, bien sûr, prise par Bruxelles, avec les différentes étapes de décentralisation, répartition des pouvoirs à différents échelons, avec aussi un certain démantèlement de l'État au niveau national, avec en particulier la création de nombreuses agences et autorités indépendantes. J'en dirige une agence de sécurité sanitaire. Mais aussi, c'est évident, par les terribles contraintes budgétaires que l'on connaît aujourd'hui. L'exercice du pouvoir est devenu hyper contraint et le politique doit sans cesse composer avec des problématiques qui sont de plus en plus complexes, d'ailleurs en général très interministérielles, aux causalités multiples et des écheveaux de responsabilités qui vont vraiment du local jusqu'au mondial. Et je crois qu'aujourd'hui, la responsabilité politique telle que j'ai pu la vivre implique désormais, en premier lieu, de savoir coordonner des compétences diverses, des acteurs épars, de naviguer entre des communautés multiples, les citoyens, les associations, les scientifiques, les partenaires sociaux, les entreprises, etc., etc. Souvent sous la pression médiatique qui impose une quasi-transparence en temps réel de la décision. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, même si le politique a moins de pouvoir direct pour agir, et que cela peut donner le sentiment d'une certaine impuissance, de générer des impatiences, je crois vraiment profondément que le politique garde une légitimité très forte, et je crois aussi une responsabilité très noble, à justement être en capacité et s'investir pour réunir différents acteurs sur un sujet donné, qui ont du mal à s'entendre spontanément, et à aider très concrètement à rechercher des solutions concrètes pour avancer ensemble au service de l'intérêt général des différents acteurs rassemblés. Je voudrais juste prendre deux exemples que j'ai vécu de près. Premier, c'est... Donc moi, j'ai été directeur de cabinet de Luc Châtel et directeur adjoint de cabinet de Christine Lagarde en même temps, donc à l'époque de la crise financière, la chute Lehman Brothers et derrière les conséquences, crise financière, crise industrielle, etc. Et j'ai vraiment vu de très près une terrible menace de disparition d'une grande partie de l'industrie, en particulier du secteur automobile, à cause de cette crise financière qui a littéralement asphyxié les entreprises, d'ailleurs aussi bien les très grandes que les petites, et qui a menacé des centaines de milliers d'emplois, voire des millions d'emplois. Je peux vous dire que le politique s'est fortement mobilisé, parfois jour et nuit, pour réunir sans cesse les constructeurs, les équipementiers de rang 1, les sous-traitants, les banquiers, les assurances, pour essayer de trouver des solutions pour sauver une à une toute une série d'entreprises, petites, moyennes, avec vraiment en face de nous des gens mais liquéfiés par une situation inconnue, qui était totalement nouvelle, et pour essayer à la fois de trouver des solutions très concrètes pour un certain nombre de cas précis d'entreprises, et aussi pour essayer de se donner une perspective plus d'ensemble, ce qui a été le plan automobile, qui a permis très fortement limiter les conséquences de la crise, et par ailleurs un peu plus sur le fond, d'essayer de rétablir des relations plus équilibrées entre donneurs d'ordre et sous-traitants. De la même façon, deuxième exemple rapide, tout peut se discuter, je ne dis pas que tout est merveilleux, mais je peux vous dire quand même qu'il y a une différence par le fait qu'il y a eu une action extrêmement forte. La question de la fixation du prix du lait paraît quelque chose... pourquoi le politique s'occupe de ça ? Eh bien parce que régulièrement, en fonction des cours mondiaux, aujourd'hui du lait, eh bien on a des problématiques de discussion entre les producteurs, entre les industriels et les distributeurs, qui, dans le jeu de la concurrence, devraient conduire à une régulation naturelle, mais qui, dans le cas du lait, où le producteur n'a d'autre solution que tous les jours de livrer son lait à la coopérative du coin, donc la notion de concurrence a quand même un peu du mal à intervenir, et où je peux vous dire là aussi qu'on a passé des jours, des nuits et beaucoup de stress à essayer, et ça se revient assez régulièrement, de trouver des solutions pour permettre de préserver un revenu acceptable pour chacun et d'assurer ainsi la pérennité d'une activité économique essentielle et de l'emploi dans notre pays. Et je peux vraiment vous affirmer que dans la grande majorité des cas, les politiques, je crois chacun dans leur domaine, agissent très sincèrement et avec beaucoup d'énergie pour la recherche de solutions concrètes et au service d'un partage plus juste des droits et des devoirs. Mais il est tout à fait vrai aussi que bien souvent, la finalité initiale d'une réforme se trouve dilué dans la complexité des sujets et le jeu des acteurs. Et notamment, par exemple, on avait pris clairement la décision politique forte de supprimer ce qu'on appelle la taxe professionnelle, qui était une taxe que tout le monde qualifiait d'ailleurs d'imbécile parce qu'elle pénalisait les investissements. Eh bien, c'est vrai que la complexité de tous les partages des revenus fiscaux au niveau des différents échelons territoriaux s'est traduit in fine par une belle usine à gaz. Et c'est vrai que c'est une des problématiques particulièrement difficiles. Mon deuxième constat que je voulais faire, très simple aussi, c'est vraiment le diktat du court terme. En cabinet ministériel, on est mais en permanence submergé par les urgences. Et j'ai vu d'ailleurs cela fortement s'accentuer entre mes deux expériences de cabinet ministériel, donc à peu près en 15 ans d'écart, liées en particulier au développement des chaînes d'information continue, d'Internet, des réseaux sociaux, d'une exposition médiatique considérable. Avec, il faut le reconnaître, quand on est ministre, on n'est pas complètement arrivé, il faut exister. Donc il faut effectivement être en permanence dans une action qui est tournée aussi vers la communication. L'action politique se déploie ainsi pour une grande part en réaction aux urgences du quotidien, relayées et illustrées par les médias. J'ai par exemple le souvenir d'avoir passé plusieurs jours de gestion de crise avec mon ministre à gérer la sortie, par UFC Que Choisir, de tests comparatifs sur les alarmes de piscine, qui montraient des alarmes non conformes et qui pouvaient donc conduire à des mises en danger. Ben, je peux vous assurer, mon épouse est là, le stress pendant plusieurs jours à se retrouver face finalement à une montée médiatique non maîtrisée et à la façon de gérer toute l'inquiétude générée par ce genre de sujet. Et ça mobilise très concrètement le politique de façon considérable. Alors, il est en soi tout à fait légitime et je dirais même nécessaire que le pouvoir politique s'occupe des situations d'urgence auxquelles sont confrontés les Français. Mais c'est vrai que cela conduit à un véritable diktat du court terme au détriment de la réflexion et du travail de fond. Les urgences sont devenues le théâtre favori du politique, qui se voit d'ailleurs assez facilement en charge de tout. Il doit avoir réponse à tout, avec souvent une attitude que je qualifierais un peu de maternante, basée sur l'émotion, plutôt qu'un souci de pédagogie. Il ressort assez clairement de ces deux éléments la perception d'un hiatus entre la parole et l'action politique, entre un discours volontariste, plein de promesses, et le sentiment d'une certaine incapacité à avoir réellement prise pour résoudre les difficultés des gens. Ça génère vraiment de l'exaspération à l'égard des responsables politiques dont la parole n'est plus jugée crédible car ils ont du mal à avoir un discours vraiment de vérité, je crois, sur cette réalité qui, malgré tout, encore une fois, j'insiste, aujourd'hui, c'est quand même particulièrement complexe d'exercer ses responsabilités politiques. Je crois aussi qu'il faut préciser que cette perte de crédibilité n'est pas propre à la France. Elle touche d'une façon ou d'une autre, je crois, beaucoup de pays européens, mais elle est sans doute accentuée par le fait qu'en France, on a quand même un peu tendance à tout attendre du politique. C'est peut-être un peu l'héritage de l'État-providence, et aussi, je crois, par une certaine incapacité, plus qu'ailleurs, à rassembler autour de quelques grandes causes pour engager de véritables réformes de fond sur une base suffisamment partagée. Mais j'y reviendrai, je ne crois pas que cela soit uniquement la faute des politiques. Alors je ne voudrais pas aller plus loin dans la description de ce qui pourrait nous conduire à une certaine désespérance, mais je voudrais vous livrer quelques pistes qui doivent nous conduire à continuer, je crois vraiment, sincèrement, à résolument y croire, à contribuer nous-mêmes à redonner sens à l'action politique, car je crois que c'est bien connu, on a aussi les politiques qu'on mérite, et c'est aussi à chacun de nous de réfléchir à la façon d'œuvrer, certes par notre vote, mais aussi par notre comportement de tous les jours, par nos engagements dans la société, dans l'exercice de nos responsabilités, pour construire collectivement notre avenir et ne pas tout attendre d'en haut. Première chose que je voudrais dire, et Philippe Meyer l'a évoqué, c'est de souligner que ce qui caractérise la période que nous traversons, pour moi ce n'est pas tant la crise que l'extraordinaire mutation que connaît notre société. Bien évidemment, nous vivons une crise financière, sociale, etc. Mais en sortant, je dirais, d'une crise classique, on retrouve d'une façon ou d'une autre la situation exemptée. Or, dans les années qui viennent, quand nous sortirons de la crise, je suis vraiment convaincu que la société n'aura plus rien à voir. Car nous assistons à une accélération extraordinaire de l'évolution des matériaux, de la génétique, de la médecine, de la communication avec le numérique, et tout cela est en train de bouleverser très profondément notre monde. Et je crois que le propre de toute mutation, c'est d'être un processus aléatoire, imprévisible, inattendu. Il n'est dans ce contexte pas complètement étonnant que nos politiques aient du mal à donner du sens à leur action. Mais je pense vraiment que cela ne veut pas dire qu'il ne se joue pas en ce moment de profondes évolutions porteuses d'avenir. Et je crois qu'en tant que citoyen, et plus spécifiquement en tant que chrétien, on peut être tenté de se replier sur nous-mêmes, de prendre de la distance par rapport à un monde dont d'ailleurs certaines évolutions sociétales nous heurtent, de protester avec le plus grand nombre sur le fait qu'on va dans le mur, et contribuer à la fédération finalement des forces de contestation au nom d'intérêts très disparates. Je suis d'ailleurs, entre parenthèses, assez étonné de voir tous les politiques depuis dimanche expliquer que le message des électeurs est très clair, qu'ils ont tous parfaitement compris le message. Je ne suis pas sûr qu'au-delà du mécontentement exprimé, le message soit si clair que ça, et je pense que c'est quand même la fédération effectivement d'intérêts assez disparates. Mais je crois que cette tentation, on peut l'avoir d'autant plus qu'avec justement la perte de crédibilité du politique, nous voyons apparaître de plus en plus la légitimité de la contestation plutôt que l'acceptation de la légitimité de la décision. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez général. Mais je crois vraiment qu'il faut résister à cette tentation et faire preuve au contraire d'une grande espérance basée, je crois vraiment, sur les potentialités extraordinaires qu'offre cette période de métamorphose, qui est propice par définition à la créativité, en s'engageant d'une façon ou d'une autre, là où on est, dans l'espace politique, pour porter à la fois individuellement et collectivement les valeurs auxquelles on croit pour construire notre avenir. Mon deuxième point, c'est que si nous sommes en mutation, en métamorphose, le futur est, pour moi, pour partie en tout cas, la contestation de notre présent. Je veux dire qu'il nécessite des ruptures, il nécessite des remises en cause. Et cette mutation, soit on la subit, en essayant d'ailleurs de se préserver soi-même le plus possible, soit on l'anticipe, on l'accompagne, pour être justement porteur d'avenir. Et si nous sommes dans une société en mutation, où le futur ne peut être construit sur la restauration du passé, acceptons-nous de nous poser la question suivante. Est-ce que j'ai la lucidité, le courage, l'intelligence pour accepter d'ouvrir, de participer à un débat dont une des conséquences pourrait être, d'une façon ou d'une autre, la remise en cause de la structure qui assure mon statut social, ma rémunération, mon pouvoir, ou encore mes modes de consommation et mon confort personnel. Sommes-nous, nous-mêmes, complices de tous les blocages de notre société qui conduisent à l'immobilisme, à la désespérance, ou osons-nous prendre le risque d'être acteurs des remises en cause qui peuvent nous toucher personnellement? Parce qu'encore une fois, je ne crois pas, en ayant vécu très proche du pouvoir, que tout peut être attendu uniquement du haut, de façon passive. Et je crois que nous pourrions méditer sur cette phrase de Winston Churchill: les hommes politiques pensent à la prochaine élection, les hommes d'État pensent à la prochaine génération. Je crois qu'elle s'adresse bien sûr aux politiques, mais aussi un petit peu à chacun d'entre nous. Et je crois assez profondément que c'est aussi les événements, les circonstances telles qu'elles peuvent surgir justement de ces périodes très troublées de mutations, de métamorphoses, qui peuvent aussi faire émerger des femmes et des hommes d'État. Mon troisième point rapide, c'est reconstruire des convictions. Je crois, je l'ai dit, nous avons en France un vrai problème de temporalité. La décision politique est totalement opposée à la construction d'une solution durable et la dictature de l'urgence est en train d'aveugler, pour moi, le moyen terme. Tous nos concitoyens, assez largement, savent que les évolutions qui doivent être conduites sont longues, au moins à moyen terme. Et je crois que très naturellement, sans y prendre garde, nous nous sommes laissés aller, je dirais, à la consommation, et les décideurs politiques aussi. On a préféré gagner un électeur, même si on perdait un citoyen. On regardait les institutions de la République par les valeurs qu'elles représentaient. Or aujourd'hui, je crois que d'une certaine façon, on consomme les institutions de la République. On ne veut pas que le juge soit juge, mais qu'il fasse mal à celui qui nous a fait mal. On ne veut pas que le professeur soit bon, on veut qu'il donne 20 à notre enfant. On ne veut pas que le scientifique soit neutre, ça je le vis moi dans mon métier aujourd'hui, mais qu'il nous donne raison. Et je crois que cette notion de consommation fait que nous avons quitté le champ des convictions pour aller sur celui des émotions. Et je crois que nous avons vraiment besoin de reconstruire des convictions. Les convictions, c'est du temps moyen, du temps long, qui est bâti sur l'expérience, sur les réalités concrètes, sur la confrontation avec celle des autres et la délibération. Lorsque les problèmes relèvent du temps long, le pouvoir politique adopte souvent un traitement que je pourrais qualifier un petit peu de symbolique, hein, avec le temps des Grenelles, des états généraux, des assises, de grandes annonces, sans procéder aux réformes structurelles requises. La discipline qu'implique le traitement des problèmes longs exige une pédagogie permettant de construire un consensus politique et social et une constance dans l'application. Je crois vraiment qu'il y a un enjeu qui est assez fort à réapprendre, à dialoguer, à rassembler sur l'essentiel. Et puis mon dernier point, refonder une éthique de la responsabilité. Moi, je voudrais quand même souligner que de ce que j'ai pu voir, hein, je n'ai pas précisé, moi je ne suis pas du tout engagé politiquement. J'ai travaillé au service, mais je ne suis absolument pas engagé politiquement. Moi, je voudrais quand même souligner que la vie politique est quand même extrêmement rude pour les gens qui y travaillent. En France, vraiment, on attend tout du politique et on le rend responsable un peu de tout. L'exposition médiatique est très violente et je crois qu'il faut prendre garde quand même aux conséquences de cette exposition, non pas tant pour les plaindre, après tout, ils l'ont choisi, mais tout simplement parce que, à force de se faire attaquer, le politique, c'est humain, il se blinde et il se protège de plus en plus, avec la tentation aussi de se décharger de ses responsabilités. Moi, je dirige une agence de sécurité sanitaire, donc il s'occupe de la sécurité sanitaire des aliments, de l'environnement, du travail, et je crois que le domaine du sanitaire est une bonne illustration. Comme le politique n'est plus écouté et qu'il est souvent mis aux causes au travers de certains scandales sanitaires, eh bien, il a tendance de plus en plus à se défausser sur l'expert. Mais on s'aperçoit que l'expert, qui était chargé d'apporter des certitudes scientifiques, est aussi de plus en plus porteur aussi d'incertitudes, de questionnements, ce qui est d'ailleurs tout à fait normal au regard de la dynamique du progrès scientifique. Et on voit bien que la gestion et la prévention des risques posent des problèmes sociologiques, philosophiques, religieux et pas uniquement scientifiques. Et que la défausse des responsabilités politiques fait peser sur la communauté scientifique, sur cet exemple-là, des problèmes qui risquent de faire retourner d'ailleurs contre lui l'opinion populaire. La politique a pour horizon des valeurs universelles, la justice essentiellement, mais elle doit d'abord répondre à des exigences immédiates, hein, le salut du peuple et son avenir. Je crois que c'est vraiment essentiel de réaffirmer ces valeurs, non pas de façon désincarnée, mais issue vraiment d'une éthique de la responsabilité. Et je crois aussi basée sur vraiment un discours de vérité. D'ailleurs, je suis très optimiste, puisque cet après-midi, à l'occasion de la passation de pouvoir entre Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls, Jean-Marc Ayrault a réaffirmé à quel point il était important de dire la vérité à chaque étape. Donc, on va attendre. Voilà. Il faut aussi, me semble-t-il, apprendre à dépasser les clivages traditionnels, les anathèmes qui sont sans cesse proférés par les uns ou les autres, pour être vraiment en capacité de rassembler le plus largement possible les grands acteurs politiques et sociaux, non pas sur tous les sujets, je crois qu'il ne s'agit pas de gommer les différences, mais de pouvoir le faire autour de quelques grands enjeux qui nécessitent du temps long et de la constance dans la mise en œuvre, car c'est vraiment le gage de la nécessaire efficacité hein, qui fait tant défaut aujourd'hui. Voilà, en conclusion, je voudrais peut-être nous inviter à ce que, tout en restant très lucide et exigeant sur les conditions d'exercice du pouvoir et sur ses résultats, nous portions peut-être un regard un peu plus bienveillant pour celles et ceux qui s'engagent au service de responsabilités collectives, quand même bien difficiles à assumer aujourd'hui, à tous les niveaux, du local au national. Et pour reprendre les mots de Max Weber, la politique, c'est le goût de l'avenir. Gardons foi et espérance dans l'avenir. Gardons le goût de l'engagement politique. Merci.
Merci beaucoup, Marc. Je pense que si tu te présentais, on aimerait entendre ce programme politique. Et je crois que nous y adhérions beaucoup. Merci de ce que tu nous as partagé, de ce regard à la fois exigeant et bienveillant sur l'enjeu politique, en nous rappelant, et je crois que c'était important, que la politique a changé, que l'agir politique n'a plus le même sens qu'il y a 30 ans, que cet exercice du pouvoir est de plus en plus contraint avec une complexité de plus en plus grande, mais que pour autant, cet enjeu du politique reste incontournable, qu'il garde à tes yeux une responsabilité très grande, très noble, tu l'as dit, pour réunir des personnes, pour chercher des solutions concrètes en vue du bien commun, et cela malgré des contraintes. Tu as souligné, je crois que c'était important pour nous de le réentendre, le diktat du court terme, que nous n'avons peut-être pas toujours en tête, ou malgré le hiatus entre la parole politique et le réel. Alors une politique, tu l'as dit, d'autant plus indispensable que les enjeux sont très grands, l'extraordinaire mutation de la société, on n'a pas fini de voir cela se décliner devant nos yeux, et nous avons à nous demander comment nous participons les uns les autres à cette réflexion politique face aux enjeux de cette mutation. On a bien entendu aussi cette invitation, un peu cette mise en garde d'une certaine manière, de reconstruire des convictions. On peut dire que peut-être nos soirées d'éthique publique essayent d'apporter de notre petite pierre dans cela. Reconstruire des convictions s'appuyant sur la délibération et reconstruire une éthique de responsabilité basée sur un discours de vérité. Alors, je crois que ces deux points de vue, qui ne sont pas les mêmes, mais qui peut-être à un moment ou à un autre vont se rejoindre, parce que je suis sûr que notre ami Philippe Meyer n'a pas dit son dernier mot sur cette question, vont en tout cas nous permettre d'engager le débat. Nous avons une grosse demi-heure devant nous pour pouvoir compléter, dire nos propres convictions sur notre manière de concevoir la politique, la vie politique, l'engagement politique, et puis d'interroger nos invités. Alors on va faire comme d'habitude, on va recueillir quelques questions à partir des premières mains qui se lèvent. Alix ? Voilà. Non, ici, Alix.
Bonsoir, j'ai deux petites questions.
Parlez un peu plus fort pour.
Oui, bonsoir. J'ai deux petites questions à vous poser. Est-il normal que la politique soit un métier à vie? Et est-ce que homme politique n'est pas devenu un synonyme d'apparatchik?
Bien, ça commence très fort, merci. On va prendre d'autres questions. Non, je vais si ça ne vous dérange pas, je vais, voilà, régler moi-même ce... Merci. Alors ça, c'est la question qui nous vient de Bordeaux.
Alors, il y en a plusieurs, la question de Bordeaux. Donc, il y a beaucoup de soucis sur quelles actions concrètes, en fait. Les gens attendent vraiment... Il y a eu plusieurs questions sur quelles actions concrètes, en particulier pour lutter contre la corruption, et puis le débat qui se résume à la disqualification de l'adversaire. Et puis ça fait un discours haineux qui n'est pas très positif. Et des solutions proposées dont les personnes souhaiteraient savoir ce que vous en pensez. Faut-il donner plus de responsabilité au local? La limitation du nombre des mandats? Est-ce qu'il y a des solutions concrètes comme ça pour améliorer la vie politique?
Merci. On va prendre une troisième. Oui, le micro va arriver jusqu'à vous.
Oui, n'y a-t-il pas une crise de la moralité? Je suis un peu surpris qu'on n'ait pas employé le mot de courage. Un exemple, il est totalement évident que notre structure administrative est stupide. Personne n'a le courage de dire qu'on n'est plus à l'époque où Napoléon souhaitait que le sous-préfet puisse aller au bout de son territoire à cheval. Bon, est-on capable de prendre des mesures qui sont courageuses, car évidemment ça va à l'encontre des besoins de tel ou tel électeur et de tel ou tel élu.
Merci. On va s'arrêter là pour l'instant. On reprendra d'autres questions plus tard. Philippe Meyer.
Alors, comme j'avais fait ma intervention dans le désordre, je vais continuer dans le désordre. L'occasion que vous me donnez de rendre hommage à Madame Lagarde est une occasion sur laquelle je saute. Et en même temps, parce que vraiment, je crois que c'est quelqu'un qui a pris... D'abord, personne ne l'obligeait à faire de la politique. Elle avait un, si j'ose dire, vrai métier, de surcroît plus tranquille, même s'il était difficile, et plus rémunérateur. Elle a fait de la politique, et elle a fait de la politique à un niveau qui est celui auquel je pense que nous avons essayé les uns et les autres de situer ce que vous appelez, monsieur, le courage. Mais je saute aussi sur cet exemple pour dire mon désaccord avec ce que vous avez dit sur les rapports entre les hommes publics et les médias. Madame Lagarde est un excellent exemple de quelqu'un qui n'a en rien, même à des moments épouvantables pour elle, où elle était traînée dans la boue pour des raisons dont on sait aujourd'hui, on pouvait d'ailleurs le deviner, mais on sait maintenant que ces raisons étaient tout à fait inexactes. À aucun moment, elle ne s'est laissée emporter par ce jeu pervers de l'information dite en temps réel qui vous obligerait, mais je ne crois pas à ce conditionnel, à vous asservir aux réactions, à la nervosité et même, d'une certaine manière, à la fonction d'énervement que remplissent aujourd'hui certaines et même la plupart des télévisions d'information dites en temps réel. On peut prendre un autre exemple, d'ailleurs, d'un autre bord politique. Quand je vois, ce qui ne veut pas dire que j'approuve nécessairement ce qu'il fait, ni que je paye mes impôts dans la joie et la bonne humeur, mais quand je vois un ministre comme M. Cazeneuve, je ne le vois en rien céder à ce cirque médiatique et je le vois faire le travail qu'il croit devoir faire, à tort ou à raison, mais il croit devoir le faire, en sortant de cette pression ridicule. Et je suis surpris qu'il n'y ait pas davantage de ministres pour comprendre que ce serait leur propre intérêt que de conserver précisément des distances vis-à-vis de ces sollicitations. Sur la possibilité d'agir, je vais être bref, mais une des choses qui, à mon avis, rend l'action publique, pas seulement l'action politique, je dirais aussi l'action des gens qui s'engagent dans la société sans aller s'encarter dans un parti politique. L'un des obstacles les plus lourds dans notre société, c'est le cléricalisme. Pas le cléricalisme des clercs de notre Sainte Mère l'Église, parce que celui-là, il n'est plus en état, même s'il le voulait, d'avoir sur la société l'effet de contrôle que je l'ai vu avoir, ayant eu la chance, quand j'étais encore étudiant, d'aller passer 3 mois au Québec à un moment où cette société passait d'une société entièrement gouvernée par l'Église à ce qu'on appelle, en matière de dégel, la débâcle. C'est-à-dire où tout à coup, cette institution s'est effondrée et a été remplacée par d'autres choses. Donc j'ai vu ce que c'était que le cléricalisme. Eh bien, je le revois en France aujourd'hui, sauf que ce sont des curés qui ne portent pas de signes extérieurs et qui, de surcroît, ce qui doit être plus commode, ne croient pas en Dieu. Mais ça ne les empêche pas de dire quel est le beau, le bien, le bon et le vrai, c'est-à-dire d'empêcher qu'on pose les questions. 2 exemples. Des études multiples, pas des sondages, des études, des gens qui ont pris le temps, ont montré que les enfants de divorcés avaient plus de mal dans leur parcours scolaire que les enfants de parents non divorcés. Si vous dites ça, il y a 9 chances sur 10 pour que vous ayez en face de vous une demi-douzaine d'aboyeurs qui disent « Quoi ? Vous êtes contre le divorce ?» Je ne suis pas contre le divorce. Je ne suis pas pour le divorce. Je suis pour qu'on regarde les problèmes comme ils se posent quand on a pu les identifier. La même chose avec l'avortement. La loi Veil a plus de 30 ans et il y a encore aujourd'hui 1/3 des grossesses qui finissent par un avortement. Vous êtes contre l'avortement ? Je suis ni contre l'avortement ni pour l'avortement, j'ai 2 positions, une position personnelle et une position comme citoyen. Comme citoyen, je pense qu'il fallait que cette loi soit votée, je pense qu'il fallait mettre un terme à ces situations atroces qui étaient celles qu'on a connues au moment où Simone Veil a fait courageusement, et Giscard d'Estaing ont fait voter cette loi. Pour le reste, si le problème se pose dans ma famille, je peux avoir une position qui est de recommander une chose ou une autre, mais je suis évidemment partisan de cette loi. Mais ce n'est pas pour ça que je suis partisan qu'on fasse comme si un avortement, c'était comme un gros rhume, et comme si ça n'avait aucune conséquence, ni psychologique ni autre, sur ce tiers des jeunes filles, car la plupart du temps ce sont des jeunes filles, qui doivent finir par se faire avorter. Ces 2 questions-là, qui sont des questions qui portent sur des sujets qui ont fait polémique, à juste titre, à un moment de notre histoire, ne sont pas des questions abordables à cause de ce cléricalisme que je comparerais dans un autre domaine, le domaine littéraire, à ce que un sociologue de la culture, Philippe Urfalino, a très justement appelé les académies invisibles. Le beau, le bien, le bon, le vrai et le juste en matière culturelle n'est plus donné par l'Académie française ni par aucune des 5 académies de l'Institut. Et au moins ces académies-là, à l'époque où elles avaient une forte influence sur ce qu'il était convenu de trouver beau, bien, juste, bon et vrai, elles avaient le courage de se mettre quelque part, ils s'habillaient en vert en plus pour qu'on puisse les voir, ils se mettaient des drôles de chapeaux, et ils avaient des rituels et des lieux qui faisaient qu'on pouvait les identifier et donc les contester. Les académies qui aujourd'hui gouvernent à travers, entre autres, un certain nombre de médias, le bon, le beau, le juste et le vrai en matière cinématographique, en matière théâtrale, en matière musicale, en matière littéraire, celles-là sont des académies invisibles et qui sont d'autant plus dangereuses que, ne reconnaissant pas leur pouvoir et ne l'affichant pas, elles ne permettent pas que ce pouvoir soit discuté et contesté. Donc voilà pour ce qui est de ce qui me paraît être une des grandes difficultés que doivent affronter tous ceux qui veulent s'occuper ou affronter les questions qui se posent aujourd'hui à travers notre société. Mais je m'arrête peut-être là.
Merci. Marc.
Peut-être en complément, est-il normal que la politique soit un métier ? Je pense que c'est une vraie question et un vrai sujet. Personnellement, donc, j'ai eu l'occasion de travailler avec Christine Lagarde et Luc Chatel qui, l'un comme l'autre, ont fait bien d'autres choses que de la politique, et je dois dire que j'ai beaucoup apprécié, parce que je pense qu'effectivement, dans l'action politique, il faut avoir une connaissance du concret, des réalités, qu'il est quand même difficile, disons, de préserver dans la durée si on est effectivement systématiquement sous les dorures de la République ou en tout cas assez éloigné de responsabilités dans les différentes sphères économiques, sociales. Le problème, c'est que les expériences personnes de la société civile qui ont été ministres n'ont pas toujours été très heureuses. Et c'est ce qui amène un certain nombre de gens de dire la politique, c'est un métier, il faut du poids politique, etc. Et c'est vrai que je peux témoigner, même qu'une Christine Lagarde, pendant assez longtemps, était un peu brocardé, comme n'ayant pas les repères, les canons du langage politique, et que c'est finalement en pleine crise, lorsque l'ensemble du gouvernement, le président, s'est aperçu qu'elle avait des réseaux extraordinaires au plan international, qu'elle parlait un anglais absolument incroyable et qu'elle avait effectivement une capacité à dialoguer, à négocier avec tous les pays, qu'elle a gagné effectivement des galons très importants. Donc ça, c'est un vrai sujet, parce que je pense qu'effectivement, c'est quand même une des explications des difficultés qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Après, bon, moi, je n'ai pas de réponse très claire sur limitation des mandats, action concrète pour lutter contre la corruption. Moi, la seule chose que je peux témoigner, c'est que moi, j'ai vu quand même des hommes et des femmes politiques avoir des vies, mais totalement infernales et impossibles, hein, par la multiplicité des responsabilités qu'ils avaient, et du coup, qui inévitablement induit d'une façon ou d'une autre beaucoup de confusion, je dirais, entre la vie publique, la vie privée. Il n'y a plus vraiment de vie privée, mais il y en a quand même une, un petit peu. Et je pense que ça aussi, c'est une question. Encore une fois, moi, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, à quel point, quand même, attention au regard qu'on porte sur les politiques. Parce que, en même temps, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous, ici dans la salle, seraient vraiment très heureux de vivre ce que subissent quand même les politiques au jour le jour. C'est incroyable, les pressions permanentes et la charge incroyable. C'est d'ailleurs des gens souvent sélectionnés pour une capacité assez exceptionnelle de résistance. Mais ça pose quand même des questions après, derrière, sur qu'est-ce que ça induit en termes de comportement. Et puis le terme de courage, oui, c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas employé pour ne pas en rajouter, mais c'est vrai que je pense que là, on a un vrai, vrai sujet. Moi, je le vois au niveau de la réforme de l'État. Je pense que ça revient quand même pas mal à cette question de temporalité. C'est-à-dire, bien souvent, ces réformes un peu de fond, elles s'inscrivent nécessairement dans une certaine durée et le bénéfice politique n'est pas en adéquation avec le temps pendant lequel ils exerceront la responsabilité. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. Moi, j'aime à dire qu'il y a plein, bon, des gros, gros dossiers, mais il y a plein de dossiers très concrets que j'appelle un peu, moi, les dossiers à petite claque. Parce que, voilà, effectivement, dès qu'on va réformer quelque chose, fermer une sous-préfecture, on va avoir une quantité de gens qui vont protester, hein, vigoureusement. On va se faire, entre guillemets, un certain nombre d'ennemis. Et globalement, à quoi bon si finalement, pendant mon mandat de telle responsabilité, bah finalement, j'arrive à gérer à peu près les choses pour que finalement tout le monde dise du bien de moi. À la fin, je caricature un peu. Mais je pense qu'on a un vrai problème de temporalité là-dedans. Alors là où j'ai un peu d'espérance, c'est que je pense quand même que le système actuel, qui est complètement tourné vers le court terme, finalement les politiques s'aperçoivent que ça ne marche pas. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'ils essayent, entre guillemets, de concilier, hein, les intérêts de tout le monde et ne rien bouger, que pour autant on est content de ce qu'ils ont fait. Donc comme c'est des gens intelligents, on peut penser, non mais c'est raison, on peut penser quand même que des choses vont évoluer. Mais encore une fois, c'est vrai que je pense qu'on a un vrai, vrai sujet dans cette capacité à pouvoir intégrer davantage des préoccupations de temps plus long, parce que je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a toute une série de réformes qui nécessite effectivement du courage, mais ce courage ne pourra pas être porté individuellement s'il n'y a pas, à mon avis, des conditions réunies pour un minimum de rassemblement. Et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait qu'on a aussi une responsabilité. Dès qu'il y a la moindre esquisse d'annonce de quelque chose, hein, qui va bousculer certains intérêts, il y a immédiatement, hein, des quantités de protestations qui sont fortement d'ailleurs relayées par les médias et qui rendent compliquée la gestion de la situation. Donc je pense aussi que ça dépend aussi, d'une façon ou d'une autre, aussi de chacun d'entre nous. Et moi, je le vois au niveau de la réforme de l'État, il faut aussi que chacun à notre niveau, là où nous sommes, on accepte de remettre en cause un certain nombre de choses.
Merci. Nous reprenons quelques questions. Tout en haut, tout en haut, tout en haut. Voilà.
Bon, bonsoir. Vous venez d'illustrer la difficulté du métier politique avec pas mal de diplômés, on revient sur les bacs plus 8 dont on parlait tout à l'heure, qui se tournent vers le privé, qui offrent parfois des carrières plus attractives en termes de rémunération et aussi parfois moins d'immédiateté, paradoxalement. On peut avoir l'impression qu'il y a toujours des grands commis de l'État, mais peut-être un peu moins qu'il y a quelques années, quelques décennies, et avec des orientations un peu différentes. Est-ce que c'est un diagnostic que vous partagez et qui peut aussi expliquer indirectement la désaffection pour le politique actuel?
Merci. Je vais faire revenir Alix jusque devant. Il y a deux questions devant. Levez bien la main pour qu'on vous voit.
Personnellement, bonjour, je pense que si on prend la société française, il faut voir que dans chaque pays, il y a quand même des références. Alors, aux États-Unis, c'est la Constitution, en Angleterre, la Couronne, en France, c'est la notion d'État. Or, il faut bien dire que cette notion d'État, après les périodes glorieuses, maintenant, elle est quand même assez décrépite. Donc là, il y a un problème fondamental. En plus de ça, les Français ne sont pas idiots, ils se disent, nos chers politiques, ils n'ont plus beaucoup de pouvoir. Où c'est Bruxelles? Bon, Bruxelles, finalement, c'est loin, c'est technocratique. Finalement,
parlez bien dans le micro.
Ça n'est pas démocratique. C'est peut-être légal d'après les traités, mais ce n'est pas démocratique. Donc, je ne crois pas. Nos chers politiques reviennent en France, disent « Oh, c'est de la faute à Bruxelles qui nous a dit que... » Les gens disent « Où est-on ? Où va-t-on ? On va voter dans 2 mois ?» Que ce soit la majorité, l'opposition, il n'y a aucun programme valable pour la relance européenne. Comment voulez-vous que les Français se disent, mais alors, à quoi ça sert d'aller voter, hein? Contrairement à notre premier interlocuteur, quand même, au niveau local, on peut peut-être faire l'effort de savoir si son maire est valable ou pas et essayer quand même de voter pour lui. Bon. Mais sur le plan général, il y a incontestablement, le Français se dit, c'est plus la peine d'aller voter, ça ne sert à rien, c'est bureaucratique, l'Europe, je ne sais pas où on va.
Merci.
Quel est le rôle de la France?
Je crois qu'on a bien compris.
Donc, je pense que là, c'est un problème de fond.
Voilà. Et derrière, je crois qu'il y avait, voilà, sur le bord...
Oui, bonsoir. Que faudrait-il faire, à votre avis, pour retisser le lien de confiance qui est complètement déchiré entre l'opinion et la classe politique?
Merci. À la télévision, en général, on vous donne 1 minute pour répondre à cette question. Et après, on vous demandait, pour améliorer la condition humaine, vous n'auriez pas une idée
Non, mais c'est la bonne question, finalement. C'est pour ça qu'on est là ce soir, quand même. Donc, merci de l'avoir posée. Voilà. Je n'oublie pas votre question. Je vous promets que le prochain tour... Voilà. Je ne sais pas si... Marc...
Moi, je veux bien commencer cette fois. Est-ce qu'un des problèmes, c'est qu'on a moins de grands commis de l'État, moins de compétences? Je vais peut-être un peu vous surprendre, mais je pense qu'il y en a trop. C'est-à-dire... non, mais d'un certain côté, je trouve qu'il y a quand même une concentration de gens très intelligents. Hein, et c'est aussi un peu le mode de recrutement au niveau de l'État, qui fait que chacun dans son domaine cherche très intelligemment à optimiser, hein, en étant assez créatif souvent, et que je trouve qu'une des difficultés aujourd'hui, c'est que l'addition de tout ce qui est fait dans tous les secteurs conduit à un niveau de complexité que plus personne ne maîtrise vraiment. Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment un problème de compétence, hein, par rapport à ça. C'est vrai que tout est devenu infiniment plus interconnecté les uns avec les autres. Honnêtement, même un ministère ou un ministre a de moins en moins de dossiers en propre. Tout doit faire l'objet d'ailleurs d'arbitrage interministériel qui est un peu une moulinette qui bien souvent voilà, lime un peu les choses et que les finalités au départ claires finissent par des ensembles. Et je pense qu'un des problèmes aussi, enfin personnellement que j'ai observé ces dernières années avec le passage au quinquennat, c'est que de plus en plus, disons, le lieu de pouvoir est clairement l'Élysée et de moins en moins Matignon. Or, toute la structure administrative de l'État a été organisée autour de Matignon. Et que je pense honnêtement qu'on n'a pas encore complètement tiré toutes les conséquences aussi de cette évolution qui est assez importante. Voilà. Après, grand commis de l'État, je pense, enfin personnellement, avoir rencontré des gens vraiment de très grande valeur. Mais c'est de plus en plus difficile d'émerger dans cette complexité qui est assez considérable. Après... C'est vrai que la référence, l'État, hein, qui est aujourd'hui, vous dites, décrépit, c'est clair qu'il y a de plus en plus de fragilité, et y compris même au sein, hein, des administrations, beaucoup de gens déboussolés, hein, aujourd'hui par une succession d'évolutions qui ne sont pas forcément très cohérentes dans le temps. En même temps, là aussi, je voudrais relativiser sur le fait que on apparaît encore dans bien des domaines un exemple quant à l'efficacité de notre administration par rapport à ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays. Alors, je ne dis pas, hein, tout est, encore une fois, se voit de part et d'autre, mais il ne faut pas quand même qu'on soit en permanence en train de penser que c'est dans tous les domaines, on est dans la pire des situations par rapport à nos voisins qui souffrent aussi, qui s'adaptent, enfin qui doivent aussi beaucoup s'adapter. Oui, c'est vrai, je pense qu'on est aujourd'hui dans un contexte qui pose beaucoup, beaucoup de questions, mais on a encore aussi, disons, un certain nombre de choses qui sont très enviées. L'Europe, moi je dois vous dire, mon premier poste, un des tout premiers postes, j'ai été énormément impliqué dans la construction européenne du temps de Jacques Delors, du temps où il y avait 12, voire 15 pays. J'ai trouvé ça mais absolument passionnant, un projet avec un sens extraordinaire, une impulsion politique extrêmement forte. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans un contexte où il se passe plein de choses, mais de façon très technocratique, effectivement, et une très, très grande difficulté à donner du sens. Je pense malgré tout que ça reste un enjeu majeur. Et c'est vrai que moi, une des choses qui m'a un peu frappé en allant au Parlement européen à Strasbourg, de voir de plus en plus de parlementaires anti-européens ostensiblement au Parlement mettre des drapeaux nationaux et manifester sans cesse leur opposition à la construction européenne. Ça pose effectivement, à mon avis, quand même pas mal de questions. Bon, je laisserai à Philippe Meyer le soin de répondre à la question sur comment retisser le lien de confiance.
Il a eu le temps de réfléchir.
Voilà.
Alors, je continue dans le désordre. Sur le personnel politique, oui, je pense qu'il y a une médiocrisation du personnel politique. D'ailleurs, on le voyait bien. Moi, j'ai enseigné 25 ans de suite à Sciences Po et on voit bien que, je dirais, les 7 ou 8 premières années, c'était donc entre 83 et 2000, vous ajoutez 25 et vous y arrivez. Ceux qui étaient dans les 5%, pas seulement les meilleurs, c'est les bacs plus 8, ceux qui étaient les plus intéressants, allaient volontiers vers le service public. Et puis après, ils sont allés vers cette espèce d'Eldorado, il faut dire, assez excitant, qui était le journalisme et la communication, en se disant que c'était un des bons moyens d'avoir ce qui est une motivation très, très noble, me semble-t-il, d'avoir une prise sur la réalité. Et puis après, ben, ils sont, beaucoup d'entre eux, en effet, partis à l'étranger, et ceux qui se sont engagés dans la politique, je ne dirais pas que c'est ceux qui n'étaient pas capables de faire grand-chose d'autre, mais c'est quand même comme ça. Et c'est quand même comme ça que le personnel politique... Non, mais je suis navré de le dire, parce que c'est malheureusement, c'est sans doute pas vrai pour une génération, je dirais, supérieure à 45 ans, mais on voit bien aujourd'hui comment on fait carrière politique. On fait une carrière politique en étant assistant parlementaire, puis après en se débrouillant pour être soit conseiller municipal d'une grosse ville, soit conseiller général ou assistant d'eux, et puis à la fin je pourrais mettre des noms malheureusement à droite comme à gauche là-dessus, alors qu'il y a au milieu de tout ça des gens dont la qualité puisse recouvrir de sa lumière la médiocrité générale, mais c'est malheureusement, je le dis sans plaisir ni sans goût d'une dérision facile ou d'un antipolitiquisme facile. L'autre problème, pas d'ailleurs, je m'excuse de dire ça devant un ingénieur du corps des mines, mais l'autre problème me paraît être celui des grands corps. Il y a là quelque chose qui bloque, à mon avis, beaucoup la fluidité de la société. Je vais prendre un exemple. À un moment donné, la direction de l'École nationale d'administration était vacante. Et il se trouve qu'à ce moment-là, c'était l'époque du gouvernement Jospin, et il se trouve que j'ai depuis très longtemps des relations amicales avec celui qui était à l'époque son directeur de cabinet, qui était un conseiller d'État. Et j'ai aussi des relations moins proches, mais amicales, enfin en tout cas de très bons camarades, avec Pierre Joxe, qui était premier président de la Cour des comptes. Et il m'était venu une idée qui était que Kofi Annan, vous savez, le maire de Saint-Coulis, le breton d'après la marée noire, comme il aime à se présenter lui-même, qui avait développé non pas seulement quelque chose de médiatique à travers la couleur de sa peau et l'étrangeté de sa présence et de l'élection d'un bassard du Togo à la tête d'un village de 400 habitants du Finistère, mais qui avait montré comment il s'efforçait d'intéresser la population, et pas seulement celle de son village, mais celle de la circonscription dont il est devenu ensuite député. Et d'ailleurs, j'ai suivi une de ses campagnes électorales, et je peux vous dire qu'on n'est pas obligé de faire de la démagogie pour être élu député, parce que je l'ai entendu engueuler les gens qui venaient à ses réunions électorales et leur dire « Et vous n'avez pas autre chose à dire qu'à demander quelque chose pour vous? Qu'est-ce que vous avez comme idée pour ce qu'on peut faire ?» pour la circonscription, pour le département, pour le pays, et ça l'a pas empêché d'être élu. Ce qui l'a empêché de continuer sa carrière, c'est deux choses. La première, c'est qu'il s'est fait piéger en étant nommé ministre, parce que on l'a nommé pour faire de la communication, donc on avait un noir, donc c'était formidable, mais surtout on s'est bien gardé de lui donner une responsabilité. On l'a nommé secrétaire d'État à l'intégration et on lui a donné aucune administration, juste une voiture, un chef de cabinet et quelques secrétaires. Il m'a dit, on m'aurait nommé sous secrétaire d'État à l'agriculture, j'avais des choses à faire, mais enfin là on m'a nommé là, alors je m'instruis. Alors il prenait sa voiture, il l'a laissée à l'entrée des cités, puis il allait discuter avec les jeunes et puis du coup il a fini par comprendre qu'il valait sans doute mieux, qu'il serait sans doute plus utile au Togo, mais bref, mon idée était qu'on lui confie la direction de l'École nationale d'administration. Je trouvais que ce n'était pas seulement une opération symbolique, c'était aussi une opération réelle de quelqu'un qui était un ingénieur de terrain, qui avait passé son temps à travailler dans une administration qui a des responsabilités importantes, qui était celle de la direction de l'équipement. Et donc, j'ai fait part de mon idée à mon ami Olivier Chramec, conseiller d'État, directeur de cabinet du Premier ministre. Il m'a regardé et j'ai senti qu'il était à deux doigts d'appeler deux infirmiers pour qu'on me conduise à Saint-Anne. Il m'a dit, Philippe, le prochain directeur de l'ENA sera un conseiller d'État, qui est le corps auquel il appartient lui-même. Et puis je suis allé voir Pierre Jox. J'avais une très bonne raison d'aller voir Pierre Jox, parce que nous avions passé ensemble un long week-end chez Anne-Marie et Kofi Amian, en Bretagne, à visiter des tas d'endroits, et donc je connaissais les relations d'amitié, d'admiration réciproque entre Kofi Amian et Pierre Jox. Et je dis, Pierre, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée que Kofi Amian soit... Et là, j'ai vu que je venais d'échapper une nouvelle fois aux deux infirmiers, et Pierre Jox m'a fait cette réponse formidable, il a dit, Philippe, le prochain directeur de l'ENA sera un membre de la Cour des comptes. Et j'ai une botte secrète. Ah, j'ai dit laquelle ? Mon candidat est une femme. Et en effet, ça a été une femme venant de la Cour des comptes qui a été candidate. C'est une parabole, je ne sais pas si ce terme est absolument approprié, mais qui me paraît assez illustratrice du poids que pèsent les grands corps dans le fonctionnement de l'État. Une dernière chose que je voudrais dire, c'est, vous avez dit aussi bien sur les questions de société que sur les questions de la réforme de l'État, qu'est-ce qu'on peut faire ? Sûrement, commencer par se persuader d'un principe qui a été énoncé, expliqué, étudié depuis plus de 20 ans par des gens comme Michel Crozier, qui est ne pas penser qu'on change la société par le haut ni par décret, et aujourd'hui encore moins qu'hier. Ce que je disais tout à l'heure sur l'information que nous ne faisons pas, que nous journalistes ne faisons pas, l'absence ou la rareté des reportages dans la presse est aussi responsable de cette incapacité que nous avons à dresser la carte et donc à décider d'une destination et d'un chemin pour y arriver. Mais de la même manière, s'il s'agit de réformer des monstres administratifs, je pense par exemple à la mairie de Paris, 52 000 fonctionnaires, il y en a 15 000 à Bruxelles, 52 000 fonctionnaires plus 5 000 contrats de vacataires. Peut-être qu'il faut ça, mais s'il faut ça, il faut sûrement les organiser autrement, les répartir autrement. Ce n'est pas la faute de Bertrand Delaneuve, c'est un peu celle de Tibéri et de Chirac quand même, parce qu'ils ont été bien, ils n'ont rien voulu faire, mais Delaneuve non plus. Mais ils ont hérité d'une mairie qui était en réalité la préfecture de la Seine. On a enlevé préfecture, on a marqué mairie dessus. Et tous les comportements étaient des comportements qui étaient héréditairement, si je puis dire, chromosomiquement, génétiquement, les comportements. Le courage qu'il fallait, c'était non pas d'avoir cette espèce de discours anti-fonctionnaire qui est un discours absurde, mais qui est le courage de dire, là où vous êtes organisé d'une manière et avec des effectifs qui remontent à une époque qui fait que vous ne répondez plus aux besoins de la société d'aujourd'hui. Il faut donc qu'on se mette quelque part ensemble et que vous y contribuiez, parce que sinon ça ne marchera pas. Et on sait très bien ce qui se passe dans ces cas-là. J'en ai encore entendu un exemple à midi en déjeunant avec justement quelqu'un de mes anciens étudiants qui travaille à la mairie de Paris. Quand on essaye de procéder à ce type de changement d'une manière autoritaire, il y a 50 paravents qui permettent de se garder des mesures disciplinaires qui pourraient être prises. Le dernier paravent était d'aller voir le médecin du travail et la personne dont on m'a parlé, qui était convoquée par son chef, parce que entre les RTT, les maladies, les jours de récup, enfin, je connais pas trop bien ce vocabulaire, mais enfin, à la fin, on s'apercevait que ça faisait 2 ans que cette personne travaillait 1 jour sur 3. Donc on l'a convoquée en lui disant 1 jour sur 3, c'était pas beaucoup. Et elle a fait remarquer qu'elle n'était pas beaucoup payée, ce qui était exact. Et elle a ajouté qu'elle avait des choses bien plus intéressantes à faire que ce qui est sans doute était aussi exact, mais cependant, il se trouve que la société n'est pas destinée à la payer pour faire des choses plus intéressantes. Et donc, on lui a fait savoir qu'il allait falloir qu'elle se mette au boulot et qu'elle vienne plus souvent. Je dirais pas 3 jours sur 3, pas exagéré non plus, mais 2 jours sur 3, dans un premier temps, ça serait pas mal. Eh bien, et je vous jure que l'exemple est vrai, parce que vraiment, je connais la personne qui me l'a raconté, cette personne est allée voir le médecin du travail, et le médecin du travail lui a fait un certificat déclarant qu'elle ne pouvait pas, étant sensible aux ondes, qu'elle ne pouvait pas s'approcher d'un écran d'ordinateur à moins de 2,50 m. Moyennant quoi, son avenir me paraît assuré. Alors, évidemment, cette situation est une situation qui se répète dans beaucoup d'endroits. Vous avez sans doute lu cet ouvrage qui a été publié par une jeune femme qui était fonctionnaire territoriale dans la région Aquitaine. L'ouvrage n'est pas très plaisant parce qu'elle règle des comptes personnels que je ne trouvais pas très élégants. Mais sur le fond des choses, ce qu'elle raconte est malheureusement vrai. Il s'est passé quoi? Il s'est passé rien. Et là où aussi il faut sortir de ce jeu de les médias en parlent et puis c'est fini, c'est précisément dans l'idée, aussi bien à l'intérieur des appareils de l'État que dans les sociétés, d'associer à la réforme ceux qui vont devoir et la réaliser et la supporter. Et ça ne se fera pas sans pleurs ni grincements de dents. Ça ne se fera pas sans conflit avec les syndicats et avec certains syndicats davantage qu'avec d'autres. Ça ne se fera pas sans bonnet rouge. Mais je crois que les hommes politiques, à propos desquels je ne partage pas votre indulgente sympathie, parce que je pense que ceux qui savent où ils vont ne se laissent pas pourrir la vie par tous les gens qui viennent sonner à leur porte. Et que c'est quand on ne sait pas où on va que l'on se dit « Ah mon Dieu, si je mécontente celui-là, je suis foutu, si je mécontente celui-là, je suis foutu ». Et à la fin, en effet, on a des journées de 18 heures et un beau jour, on regarde quelqu'un chez soi au petit déjeuner, on dit « Qui c'est ?» et quelqu'un dit « C'est ton fils ». Ah, il a beaucoup grandi. Je pense que ceux qui ont cédé devant les bonnets rouges, pardon mon père, décidément, entre les grands corps et les bretons, je vais finir par me faire sortir, mais ceux qui ont cédé devant les bonnets rouges n'y ont rien gagné, du tout, du tout. Ils n'ont à aucun moment capitalisé politiquement sur le fait qu'ils aient cédé devant des pressions. Alors, peut-être ces pressions étaient peut-être justifiées, je ne le crois pas, mais le fait qu'ils aient cédé devant des pressions qui les amenaient à renoncer à des dispositions dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles avaient été jusque-là présentées comme chargées des meilleures intentions et notamment à propos d'un sujet qui nous préoccupe tous, plus ou moins sincèrement, qui est celui de l'environnement, est quelque chose qui n'a fait rien gagner à ceux qui se sont inclinés devant la force. Je pense qu'il y a là aussi un certain nombre d'enseignements à tirer, mais en tout cas, je voudrais insister sur cette importance qu'a pour moi l'information, et encore une fois, pas seulement l'information à travers les professionnels, mais l'information à travers... Il ne faut pas croire que les gens qui travaillent dans les préfectures, qui sont encore assez souvent, bien quand même, monsieur, il y a eu de fortes réformes en matière d'organisation des sous-préfectures, il y en a beaucoup qui ont été supprimées, et à juste titre, et le dernier sous-préfet que j'ai vu à cheval, il chassait à court, donc c'était à titre privé. Dans les administrations, dans les entreprises, pourquoi est-ce que vous croyez qu'il y a tant de jeunes gens et de jeunes filles aujourd'hui qui sortent avec des diplômes ou des moyens d'avoir un métier, qui préfèrent aller dans les PME ou dans les PMI? Je vois par exemple dans l'industrie du bois, c'est extrêmement frappant. C'est une industrie de PME et de PMI. Ça a un succès absolument considérable. Les gens ne veulent pas, les jeunes souhaitent ne pas aller travailler dans des grandes boîtes, parce que dans des grandes boîtes, ils ont le sentiment que d'une sorte de d'anonymat, d'incapacité à faire valoir une observation, une idée ou quelque chose.
Il y a quand même un paquet de candidats qui seraient très contents de travailler dans des grandes boîtes qui n'embauchent plus. Hein.
Ben, ils seraient très contents d'avoir un salaire. Et puis une fois qu'ils... Vous savez, c'est une chose, il faut se méfier de ça. Je vais prendre un exemple dans un passé récent. Vous vous souvenez de la campagne de 2002 que Lionel Jospin a perdue de la manière dont il se rappelle, et d'autres gens aussi. Vous vous souvenez peut-être moins de ce qui était le slogan qui était sur tous les documents électoraux qu'il le faisait distribuer. C'était « La France va mieux ». Et c'était vrai, statistiquement. La création des emplois jeunes, quoi qu'on en pense, avait en effet diminué le nombre de chômeurs et notamment de jeunes chômeurs. Malheureusement, cette vérité n'était qu'une vérité statistique. Alors, le jeune chômeur, le jour où il passe de jeune chômeur à emploi jeune, il est très content. Il dépend moins de son entourage, il a quelque chose à faire, il touche un salaire, et il peut commencer à se faire à l'idée qu'il va avoir une vie à lui. Même si c'était la plupart du temps des emplois associatifs qui étaient très peu payés, mais ils étaient payés, c'était un salaire, il y avait quelque chose à faire. Puis au bout d'un certain temps, ces jeunes qui ont eu des emplois jeunes se sont aperçus, pour beaucoup, pas pour tous, mais pour beaucoup, que c'était des emplois bidons. Et qu'ils étaient traités comme les derniers des derniers, c'est-à-dire qu'on leur donnait à faire ce que personne de ceux qui, eux, avaient un vrai salaire avec un vrai statut et une perspective de carrière, ne voulait plus faire. Et du coup, ceux qui avaient été à la base de l'affirmation statistiquement juste de Lionel Jospin, « La France va mieux », s'est retourné contre ceux qui avaient créé des emplois qui était générateur d'une déception considérable. Tous ces gens-là pouvaient parler. Tous ces gens-là, on peut les faire parler. Alors, il y a 50 000 moyens. Il y a eu un moment où en France, il y avait des clubs, le club Jean Moulin, d'autres, qui s'efforçaient de récolter cette information sur la société et de la renvoyer à la société elle-même. Ces clubs, on ne peut pas dire qu'ils ont disparu. Au contraire, ils se sont multipliés. Sauf qu'au lieu d'être des clubs destinés à informer la société sur elle-même, ce sont devenus des sociétés de secours mutuels. Alors, on va dans 50 000 clubs différents, d'ailleurs on est invité tout le temps à aller dans un club ou dans un autre, dans lequel on est censé faire des connaissances qui ensuite vont vous permettre de booster votre carrière d'amplifier votre carnet d'adresses. Mais ce n'est pas un service rendu à la société. Le service rendu à la société, pour moi, passe par l'information de l'extérieur et l'information de l'intérieur. On ne réformera pas ce pays si on prétend le réformer par le haut ou par décret, comme le disait Michel Crozier.
Merci. L'heure avance, nous nous approchons de la fin, mais je voudrais quand même qu'il y avait une question qui était en attente, et je ne voudrais pas que nous terminions notre soirée sans, si monsieur veut bien lever la main, voilà. Merci.
C'est à propos du poids de la fonction publique dans les fonctions politiques.
Le poids de la fonction publique, oui.
Dont on dit qu'il est trop fort, qu'il y a trop de fonctionnaires d'origine qui font de la politique. Que pensez-vous de la proposition de Bruno Le Maire qui consiste à démissionner de la fonction publique quand on veut s'engager dans la politique ?
On veut s'engager dans la politique. Oui, démissionner de sa... son statut de fonctionnaire quand on veut s'engager dans la vie politique.
Bon, en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas ça qui va résoudre le problème de trop de fonctionnaires, hein, parce que même s'il y a beaucoup de vocations politiques, ce n'est pas ça qui modifiera beaucoup. Après, c'est vrai que c'est, à mon avis, une question d'éthique personnelle. Hein, ensuite, c'est vrai que c'est le témoignage d'un engagement. Alors, c'est à double tranchant, hein, c'est toujours la même chose, parce que le fait... Hein, de se dire que je pourrais faire autre chose après la politique par le fait que je pourrais retrouver une activité par le fait d'être fonctionnaire peut contribuer à éviter d'avoir des personnes qui ne font que de la politique toute leur vie. À l'inverse, c'est vrai qu'une des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on voit bien que même à l'Assemblée nationale ou au Sénat, globalement au niveau des politiques, il y a une proportion considérable finalement de fonctionnaires, parce qu'ils ont justement un peu cette sécurité et que ça pose quand même un problème effectivement de représentativité, hein, par rapport à l'ensemble des activités et l'ensemble de la population. Ça, c'est certain. Voilà, je crois que c'est une position effectivement personnelle. Je crois qu'elle mérite effectivement d'être entendue. Je me prononce pas sur le fait de savoir s'il faut le généraliser. En tout cas, c'est pas, enfin, disons, ça ne résoudra pas de façon macroscopique, en tout cas, la question de savoir si ça serait un moyen de réduire le nombre de fonctionnaires.
Moi, j'ai peur que ce soit une proposition assez démagogique, qu'on puisse en effet considérer que pendant qu'un fonctionnaire est élu de la République, il ne doit pas pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages liés à sa carrière. Je pense à ça parce qu'on a appris un beau jour que l'ancien président de la République, Jacques Chirac, touchait sa retraite de la Cour des comptes, où je pense qu'il a dû visiter une fois. Je ne sais même pas s'il savait encore où elle était, plus celle de président du Conseil général de Corrèze, plus celle de maire de Paris, etc. Là, il y a un moment où, comme on disait quand j'étais dans la marine, il y a du rap d'abus. Et que par conséquent, il faut réglementer ça. Mais pour le reste, où vont-ils? Enfin, la carrière politique, c'est un risque. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une espèce de double peine, celle de perdre son mandat et ensuite celle de perdre ses ressources? C'est quelqu'un qui a provisoirement abandonné son métier de professeur ou son métier de magistrat ou son métier de vétérinaire dans une structure publique ou de médecin hospitalier, pourquoi est-ce que cette personne ne devrait pas retrouver, quand les électeurs l'ont désavoué, ne devrait pas retrouver un métier pour lequel elle est formée et dont on peut penser qu'elle l'exercera convenablement? Et quel risque y a-t-il au bout de ça? Ben, qu'il n'y ait plus que des retraités qui fassent de la politique. C'est d'ailleurs beaucoup ce qui est en train de se passer, en tout cas au niveau des mandats importants. Si vous regardez dans les récents élus des conseils municipaux, vous y verrez une flopée de retraités, et notamment dans tous les départements qui sont en perte de vitesse, où il n'y a plus personne pour vouloir, ou plus grand monde pour vouloir prendre le risque de se soumettre à l'élection.
Voilà, je ne suis pas sûr que cette soirée ait réveillé la foi politique de Philippe Meyer. Pourtant, je crois qu'il me semble vraiment important que nous continuions à nous intéresser à la politique, et nous le savons indispensable pour élaborer l'avenir, pour déchiffrer l'avenir. Soutenons aussi ceux qui s'y engagent, parce que cela est particulièrement difficile, nous l'avons entendu, et nous savons qu'il y a beaucoup d'élus locaux qui sont tout à fait admirables, et nous ne le disons pas assez. Et puis, je crois, veillons à notre propre responsabilité citoyenne à chacun, parce que nous sommes tous, pour une petite part, responsables de l'évolution de notre pays. À la sortie, un petit stand de la revue Projet vous proposera entre autres le numéro d'avril 2012 sur ce thème « Pourquoi vote-t-on encore ?» Et vous n'avez pas oublié... Et vous n'avez donc pas oublié la prochaine soirée d'éthique publique, le 6 mai, où nous nous intéresserons à l'Europe. Comment se réapproprier l'Europe ? Merci de votre fidélité pour cette 50e soirée.
C'est pourquoi vote-t-on encore au Congo Kinshasa.